RFI.fr. Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
5h42 à Paris, Afrique Matin continue. Dans quelques minutes, on ira en Tunisie pour notre reportage du jour à la rencontre des femmes berbécha. Les femmes qui collectent le plastique pour vivre un métier on ne peut plus précaire, on l'entendra. Une rencontre culture ensuite, la danseuse, chorégraphe et directrice artistique Angèle Kaba est notre invitée ce matin. Ambassadrice des danses afro-urbaines, elle présente à New York son spectacle Breaking NYC. Le monde en question, les négociations sur la guerre en Ukraine peuvent-elles réellement progresser avec le retour de plus en plus imminent de Donald Trump à la Maison Blanche? On tentera d'y voir plus clair avec Bruno Darou, mais d'abord des terrains un peu plus légers, c'est l'heure des sports. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Sébastien.
Du foot avec vous et cette petite sensation en Ligue des Champions. Les doubles tenants du titre, les Égyptiens d'Al Ahly battus lors de la quatrième journée de la phase de groupe. C'était pas arrivé depuis longtemps. Hein.
27 matchs exactement et ça s'est passé sur la pelouse du CR Belouizdad qui avait pourtant encaissé, on le rappelle, un 6-1 en Égypte il y a 15 jours. Pas du tout le même scénario cette fois. Victoire 1-0 des Algériens à l'arraché, but de Naoufel Kassef dans le temps additionnel. Ça suffit pour faire un exploit, empêcher le club du Caire d'obtenir tout de suite sa qualification pour les quarts de finale et pour l'entraîneur du CRB, Abdelkader Amani, d'être rempli de gratitude envers ses joueurs.
On l'a fait. Moi, je tiens tellement à remercier tous les joueurs pour relever le défi de gagner ce match et effacer le match de la face à Ali. Le plus important, les joueurs ont voulu relever le défi parce qu'ils étaient touchés dans leur amour propre. Je peux vous dire, toute une semaine, je ne suis pas sorti de la chambre. Chaque fois, je cherche à trouver une solution. J'étais presque toute la semaine à côté d'eux. On a fait beaucoup de réunions ensemble. Ils m'ont rendu la monnaie et je tiens beaucoup à les remercier. On représente l'Algérie. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est le drapeau de l'Algérie aussi qu'on a défendu avant de parler du CRB.
Vraiment très content, Abdelkader Amrani, on le comprend. Avec Sofiane Anani au classement provisoire du groupe C, Al Ahly reste en tête devant Belouizdad qui a pris la deuxième place en attendant l'autre duel de la poule entre les Sud-Africains d'Orlando Pirates et le stade d'Abidjan, prévu tout à l'heure à 16h, temps universel.
Dans le groupe A, Christophe, obligation de résultat pour le tout-puissant Mazembe qui est mal parti dans cette phase.
Deux matchs nuls, une défaite. Pas terrible, les Corbeaux, troisième du classement. C'est donc le moment de faire un joli coup en Tanzanie chez les Young Africans et de faire mieux qu'à Lubumbashi le 14 décembre dernier où les joueurs de la Mindiaï avaient dû se contenter d'un nul, un partout. Mais l'entraîneur du club congolais assure que l'équipe a su tirer les leçons de ce faux pas.
C'est un autre état d'esprit qui est là, d'autres ambitions qui sont là. On sait que ça va être un match très disputé, très difficile, parce qu'ils ne sont pas non plus au mieux. Ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps. Ce match-là n'est pas décisif, mais il est important. On est ici pour jouer et pour faire un bon match, et pour faire un bon résultat aussi. Je pense qu'on a de la qualité dans l'équipe, et si on retrouve nos forces, je pense qu'on peut aussi embêter cette équipe-là.
La Mindiaï avec, avant Young Africans, TP Mazembe à 13h, temps universel. Le match entre les confortables leaders du groupe, les Soudanais d'Al Hilal et le Mouloudia d'Alger, aura lieu demain. Également au programme ce samedi dans le groupe B, les Marocains de l'ASFAR contre les Congolais RDC de Maniema et le Raja Casablanca face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Les deux rencontres à 19h.
Toujours du foot, Christophe, et cette incertitude autour de Mo Salah. Toujours pas fixé sur son avenir en fin de saison.
Liverpool ou ailleurs, la star égyptienne, actuel meilleur buteur et passeur de Première Ligue, est, on le sait, à 6 mois de la fin de son contrat avec les Reds et il n'est pas très optimiste sur la possibilité d'une prolongation. C'est ce qu'il laisse entendre, en tout cas, dans une interview à la chaîne britannique Sky Sports. Nous sommes loin de tout progrès, explique-t-il, manière pas du tout voilée de mettre la pression sur le club. Un transfert vers l'Angleterre, acquis sur le principe celui-là, le défenseur central ivoirien de Reims, Emmanuel Agdou, va partir pour Wolverhampton, qui lutte actuellement pour le maintien. Le club champenois va toucher quand même 20 millions d'euros.
Le journal des sports, Christophe Diremzian, on vous retrouve tout à l'heure. 4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et ces milliers de personnes attendues dans les heures qui viennent à Séoul. Après une journée déjà chaotique, les manifestants exigeront une fois encore l'arrestation du président déchu Yoon Suk-yeol après l'échec hier d'une première tentative. Les enquêteurs munis d'un mandat se sont présentés au domicile de l'ex-dirigeant, mais son service de sécurité et des soldats ont empêché cette arrestation. Et cela après de longues heures de négociations, parfois tendues. Yoon Suk-yeol, qui est visé par une enquête pour rébellion après sa tentative infructueuse d'imposer la loi martiale. Assad al-Shibani, le nouveau chef de la diplomatie syrienne qui va multiplier les visites régionales dans les jours qui viennent. Il doit se rendre au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Hier, ce sont les ministres français et allemands des affaires étrangères qui étaient à Damas pour rencontrer Ahmad el-Charré. Ils ont plaidé pour un vaste dialogue avec tous les groupes ethniques et religieux qui vivent dans le pays et une transition inclusive du pouvoir. Les dirigeants de facto du pays estiment, lui, que l'organisation d'élections pourrait prendre 4 ans. Mike Johnson, qui conserve finalement le perchoir de la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement des États-Unis, a en effet réélu hier ce proche de Donald Trump comme speaker. Il aura fallu 2 tours de scrutin. 3 élus républicains avaient d'abord apporté leur voix à un autre candidat, mais ils ont changé leur vote lors du tour suivant. Les États-Unis encore, où le président élu sera fixé sur une peine de justice 10 jours avant sa prise de fonction. Le 10 janvier, le tribunal de Manhattan prononcera sa peine dans l'affaire qui oppose Donald Trump à Stephanie Clifford, dite Stormy Daniels, cette ancienne actrice de films pornographiques dont il a acheté le silence, lui, qui a été condamné le 30 mai dernier. Et puis Edmundo González Urrutia, l'opposant vénézuélien qui revendique sa victoire à la dernière présidentielle, qui doit rencontrer aujourd'hui les dirigeants de l'Argentine et de l'Uruguay. Il est d'ailleurs arrivé dès hier à Buenos Aires, alors que les autorités de Caracas promettent une récompense de 100 000 dollars pour toute information qui mènerait à sa capture. Ils et elles sont encore bien souvent des rouages de l'économie informelle, particulièrement dans les pays qui n'ont pas adopté le tri sélectif des déchets. On parle ce matin des collecteurs de plastique pour notre reportage du jour. Il y en a près de 8000 en Tunisie, par exemple. Là-bas, on les surnomme les berbéchas et parmi eux, beaucoup de elles, beaucoup de femmes pour un métier exposé à la précarité. Une association alerte sur leur vulnérabilité. Notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise, a justement suivi le quotidien de l'une d'entre elles.
Chaque jour, Basma Lamliki, 53 ans, sort avec une poussette rafistolée pour faire sa tournée. Entre les poubelles et les particuliers, elle collecte les bouteilles de plastique et du pain rassis. Elle vend les bouteilles à un dépôt de plastique et le pain aux agriculteurs pour leur bétail.
Alors là, vous voyez, je vais passer voir une dame que je connais depuis longtemps. Elle me prépare les bouteilles vides en général, chaque vendredi.
Donc ça vous évite de chercher dans les poubelles ?
Non, je passe toujours faire les poubelles aussi au cas où, car ça complète ce que l'on me donne directement, et aussi si quelqu'un est absent et que je n'ai pas eu assez de bouteilles dans ma tournée.
Ce labeur, elle le pratique depuis 30 ans, dans le quartier de l'Ariana à Tunis.
Bonjour Basma, tu as des bouteilles plastiques pour moi ?
Son travail est essentiel car sa mère et son frère, malades, dépendent d'elle financièrement.
Quand j'avais la vingtaine, nous n'avions pas suffisamment de moyens dans ma famille. Je ne trouvais pas de travail, donc un jour je suis sortie avec le chariot qui nous sert pour la bonbonne de gaz et j'ai commencé à demander à des gens du quartier s'ils avaient du pain ou des bouteilles vides car je savais que je pouvais les vendre.
Basma compresse ses bouteilles pour réduire leur taille. Elle fait tout à main nue, sans gants de protection. Une fois sa tournée finie, elle va peser et vendre son sac de plastique dans un dépôt.
Allez Karim, dépêche-toi. Pèse mon lot d'abord, car je dois y aller et n'oublie pas de me redonner le sac. Voilà, ça fait 6 kilos. Le kilo est à 1 dinar, donc j'ai gagné 6 dinars aujourd'hui.
Soit 2 euros, qui lui permettront de nourrir sa famille pour la journée seulement. C'est cette précarité qu'a voulu mettre en lumière Maha Berghaoui, auteure de l'étude sur les femmes berbéchas pour l'Union nationale de la femme tunisienne.
Notre étude a montré qu'une femme sur 5 ne bénéficie pas de carnet de soins, donc n'a pas accès aux soins gratuitement. Malheureusement, les femmes qui devraient être à la retraite sont encore en train de travailler.
L'étude est l'une des premières en Tunisie à révéler les conditions de ces femmes.
Cette étude, qui est le début d'une recherche-action, a pour l'objectif de mettre en exergue la vulnérabilité de ces femmes, de définir leurs besoins dans un but ultime, qui est le plaidoyer auprès des décideurs.
Mais la grande majorité travaille sans aucune couverture sociale. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Une rencontre culture à présent sur RFI. Elle est danseuse, chorégraphe, directrice artistique. Elle souhaite dépasser les frontières et créer un centre artistique en Afrique. Angèle Kaba est notre invitée ce matin. La première femme à diriger un spectacle off-Broadway, comme on dit à New York, avec son spectacle Breaking NYC, une plongée dans l'univers du hip-hop et une célébration des danses afro-urbaines. Mais d'ailleurs, un spectacle off-Broadway, tiens, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, Angèle Kaba nous l'explique au micro de Christina Okello.
Angèle Kaba, bonjour.
Bonjour.
Off-Broadway et Broadway, quelle est la différence ?
Broadway, c'est une quarantaine de théâtres officiels avec plus de 400 ou 500 places, avec des budgets en général qui vont entre 1 million de dollars et plus. Et puis, il y a ce qu'on appelle Off-Broadway. C'est la catégorie juste en dessous avec des théâtres un peu plus petits, avec moins de budget. Donc, en l'occurrence, le théâtre où Breaking NYC a été produit, c'est 149 places.
Comment êtes-vous arrivé à diriger ce spectacle et quelle est son histoire ?
En fait, j'avais pas du tout d'histoire. J'avais un mois devant moi parce que le théâtre dans lequel on a produit Breaking NYC était vide, était disponible en fait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant les auditions, j'ai fait 2 jours d'audition où j'ai eu une 60aine d'artistes qui sont venus d'un peu partout. Au fur et à mesure des auditions, je commençais à créer des petites histoires dans ma tête en fonction des danseurs que j'allais sélectionner. Donc après, on s'est focalisé sur l'évolution des danses. C'est-à-dire, on part du hip-hop qui est le breaking, le breakdancing, et ensuite, on va sur d'autres danses, on va dire urbaines, qui découlent du hip-hop, mais qui sont pas forcément hip-hop, ou alors qui sont attachées au mouvement, comme le popping, le locking, on a vu le crump, on a vu le light feet, qui est un style de danse qui est né à New York au début des années 2000. Et en fait, chaque style de danse a été attaché à une petite histoire personnelle de chaque danseur, mais elles ont aussi été présentées dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été créées.
Quel accueil a reçu ces spectacles ?
Franchement, c'était au-dessus de mes attentes. Je stressais énormément parce que en tant qu'immigrée, on se sent toujours un peu petit, on se dit ouais, je suis pas à ma place, peut-être que je suis pas assez fort, peut-être qu'ils sont mieux que moi. Enfin, il y a plein de doutes qui se mettent dans nos têtes. En plus, avec le nouveau gouvernement qui se met en place ici, oui. Les gens étaient un peu impressionnés parce qu'ils s'attendaient pas qu'une Africaine antillaise immigrée pouvait créer un spectacle comme ça aussi authentique. En fait, j'ai vraiment respecté la culture hip-hop au mieux que j'ai pu en fait parce que c'est une culture qui m'inspire.
Dans un milieu théâtral souvent rigide, comment avez-vous réussi à préserver votre identité?
En travaillant très très dur, je suis arrivée tout doucement mais sûrement. Et quand ce projet est venu, j'ai pas eu à trop en fait compromettre mon art pour créer en fait. Et ça c'était bien. Bien sûr, le hip-hop, les danses hip-hop, la culture hip-hop, le mouvement hip-hop, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué depuis l'âge de 16 ans. Mais mon identité africaine, antillaise, est diverse en fait, est toujours là. Donc je pense que je vois les choses différemment. Je vois l'évolution des danses ou l'histoire américaine ou des noirs américains différemment parce que je suis pas née dedans. Donc j'ai un regard intérieur peut-être qui permet, j'ai envie de dire, de mettre les choses en avant ou de les embellir différemment, ça c'est sûr.
Née en Belgique, d'une mère martiniquaise et d'un père congolais, comment vos racines influencent-elles votre travail ?
Je suis une petite meuf de quartier, congolaise, martiniquaise, c'est un des métissages les plus banals qui existent chez nous. Jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais pu être capable de créer un spectacle qui touche le cœur des gens comme ça. C'est vrai que toute cette, j'ai envie de dire, cette diversité, cette multiculturalité, elle est présente dans mon travail. Je pense pas que j'aurais pu réaliser un projet comme ça sans, j'ai envie de dire, m'inspirer de qui je suis.
Vous avez créé une technique de danse appelée Kafrikaan. Est-ce une façon de rendre hommage à vos origines ?
En fait, au début, j'avais du mal à trouver ma place. Je me souviens que quand je donnais cours de hip-hop ici, j'étais comparée ou en compétition, on va dire, avec tous les gens qui sont nés ici, qui ont travaillé avec des gros artistes, je sais pas, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kanye West, tout ça. Donc, je me suis dit, oulala, je m'attaque à quelque chose de solide. Et j'ai dû, en fait, pour me différencier de la concurrence, venir avec mes origines. Et c'est comme ça que j'ai créé ce qu'on appelle la technique Kafrikaan. Mon nom, Kaba, et africaine pour la danse africaine. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, pourquoi les gens pensent que je suis l'ambassadrice des danses afro-urbaines ici ? Tout doucement, j'ai commencé à apporter l'idée que les danses afro-urbaines, elles existent à part entière et qu'on n'a pas besoin en fait de les mélanger ou de les fusionner avec d'autres styles. Et tout doucement, j'ai commencé à créer un mouvement qui s'appelle Afro-Dance New York, où en fait, les danses afro-urbaines et sociales, eh ben, elles sont représentées pour ce qu'elles sont. Le dombolo, le coupé décalé, l'afro-house, différents styles de danse que j'enseigne pour ce qu'elles sont. Je n'ai plus besoin aujourd'hui de le fusionner avec le hip-hop parce que maintenant les gens aujourd'hui sont assez éduqués, ouverts et réceptifs à ces danses-là.
Quels sont vos rêves aujourd'hui ?
J'aimerais bien ouvrir un centre culturel ou un centre des arts quelque part en Afrique, pas forcément le Congo. Je rêve le Kenya, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'y ai jamais été. J'aimerais bien avoir la plus grosse institut artistique et que les gens de l'extérieur du monde entier viennent enseigner ou apprendre en fait de nous.
Angel Kaba, merci.
La danseuse, chorégraphe et directrice artistique Angel Kaba, invitée de Christina Okello ce matin. Entretien à retrouver, à partager évidemment sur Internet.
RFI.
À 5h56 à Paris. Comme chaque samedi, on retrouve le monde en question. C'est avec vous, Bruno Daroux. Bonjour.
Bonjour.
Et cette semaine, vous revenez sur l'un des grands dossiers de politique internationale qui dominera l'agenda diplomatique et sécuritaire en 2025, c'est quasi certain. La guerre en Ukraine, qui dure depuis presque 3 ans. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on reparle de possibles négociations pour tenter de mettre fin à ce conflit. Et la question que vous vous posez, Bruno, peut-on s'attendre à une réelle percée dans les négociations ?
Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le nouveau président américain Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier, veut régler le problème ukrainien. Ce qui est beaucoup moins sûr, c'est de savoir si les deux protagonistes, les Russes et les Ukrainiens, sont prêts à entamer de telles négociations et surtout sur quelle base. Durant sa campagne, Trump a expliqué qu'il réglerait le problème ukrainien en 24 heures. Il est moins affirmatif aujourd'hui, et pour cause. De part et d'autre, on se dit prêt à négocier, mais sur des critères qui sont tellement aux antipodes qu'ils paraissent vouer en l'état ces négociations à l'échec. Les Ukrainiens expliquent qu'ils doivent récupérer l'intégralité de leur territoire, y compris donc les 18% occupés par les Russes, mais on sent qu'ils pourraient accepter un gel de cette question si l'objectif final est réaffirmé.
En revanche, les Russes, eux, Bruno, semblent sur une position beaucoup plus dure.
Oui, et ils ont réagi à certaines fuites qui ont volontairement émané du camp Trump. Des propositions qui ne sont pas encore un plan de paix, mais qui ressemblent un peu. Il y a d'abord la proposition de geler le front entre les deux protagonistes et de déployer des soldats de pays européens et non pas de l'OTAN. Le long de ce front, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déjà réagi et c'est niet. Niet également à la proposition selon laquelle l'Ukraine n'adhérerait pas à l'OTAN avant une période de 20 ans.
Bon, et dans ce contexte, quelle est donc la marge de manœuvre finalement de Donald Trump ?
Eh bien, elle est étroite, mais pas inexistante. Le seul fait de son retour à la Maison-Blanche a déjà relancé l'idée même de négociation. Il revient au pouvoir alors que les Russes et les Ukrainiens s'affrontent depuis presque 3 ans et sont les uns et les autres épuisés. Des deux côtés, les pertes humaines sont considérables, même si les Russes ont davantage de ressources en armes et en hommes que l'Ukraine et sont à l'offensive depuis plusieurs mois. Une offensive importante, mais pas vraiment décisive. Enfin, la situation économique de la Russie s'est fortement dégradée depuis quelques semaines. Pour toutes ces raisons, Donald Trump a une carte à jouer, notamment vis-à-vis de la Russie. Reste que si des négociations démarrent, elles seront longues et douloureuses. La guerre en Ukraine ne sera pas réglée en 24 heures, comme l'affirmait Donald Trump. Ça, c'est une quasi-certitude.
Le monde en question, Bruno Darroux, tous les week-ends sur RFI. 5h, tout juste 59 ici à Paris. RFI Matin va débuter dans une petite minute, ce sera avec Gaëtan Plenné. Juste le temps pour moi de remercier Laurent Hérault qui était à la réalisation, Édouard Dupénoat à la rédaction en chef, mais surtout merci à vous pour votre fidélité à la Radio du Monde. Excellente matinée.
Appel sur l'actualité, prenez la parole. 33 9 693 693 70. Toutes vos questions et réactions sur l'actualité du lundi au vendredi à 8h10 TU sur RFI.
Sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
C'est un nouveau rendez-vous que je vous propose pour découvrir, partager, s'étonner, s'évader. Littérature et cinéma, stand-up ou séries à succès, peinture ou graphes, musique et slam, tous les arts de tous les continents. Sur le pont, on se retrouve à partir du 6 janvier, du lundi au vendredi, à 15h10 TU sur RFI.